Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la 38e émission de Comic Stories. Émission qui sera consacrée à un thème versus cette semaine, puisqu'on va essayer de départager Bat Burton de Bat Nolan. Avant ça, nos stories seront consacrées à la New York Comic Con qui a eu lieu le week-end dernier et durant laquelle des tonnes d'annonces sont tombées. Et puis on terminera par les comics de la semaine, à savoir Batman 35 et Witches numéro 1. Pour ce programme qui est peut-être un des plus chargés depuis le début de la saison, avec moi Arnaud.
Bonsoir.
Clément.
Bonsoir.
Et Étienne.
Salut.
Et Byron.
Salut.
Le programme est dense, donc on va attaquer directement par nos stories. Nos stories de la semaine, donc, c'est une spéciale New York Comic Con, uniquement des news qui sont tombées pendant la convention, pas forcément coup de cœur, pas forcément what the fuck, juste voilà les news qu'on a retenues de cette Comic Con, et on va commencer avec Clément qui va nous parler du cadeau de Noël dont beaucoup vont avoir envie.
Exactement. Si je vous dis Groot, si je vous dis Baby.
je s'appelle Groot, non ?
Non. Marvel a annoncé ce dont on attendait, ce que l'on attendait tous, un jouet Baby Groot. Donc vous savez, quand il dansait tout, et ben voilà, on va pouvoir l'avoir sous notre sapin de Noël.
Voilà, un joli petit pot avec Baby Groot qui danse et qui envoie la musique des Jackson 5 en plus.
Cool.
Pour le prix de
$15.
$15,
ça va,
ce qui est
correct. Oui.
On a vu la vidéo, donc c'est ni plus ni moins que la même chose que ces fameuses fleurs là dans les pots là qui dansaient et tout, sauf que là on a Baby Groot et voilà, c'est un peu de la même cam, mais c'est cool.
C'est ça.
Et c'est marqué sur le pot en plus, I am Groot, je crois.
Oui, exactement.
Une autre nouvelle qui est tombée durant cette Comic Con, Clément, c'est Marvel qui fait un gros doigt à la Fox et cette fois c'est confirmé.
Et voilà, je vais m'abstenir. Donc, la rumeur était quand même de plus en plus insistante depuis plusieurs semaines. Donc là, Marvel vient de le confirmer. On a l'annulation de Fantastic Four. Et donc, ils viennent faire un gros doigt à la Fox dans la mesure où, du coup, la Fox va être, un euphémisme de dire ça, très emmerdée pour ces films Fantastic Four.
Bon, très emmerdé, parce que oui et non, parce qu'ils ont plein d'histoires qui existent déjà et qui vont pouvoir piocher. C'est surtout le fait qu'ils n'auront aucun support de com et de promo dans les comic shops.
Les comics, ouais.
Ah oui, complètement. La fin de Fantastic Four, ouais, niveau com, c'est pas. Enfin, ouais, non, c'est pas du tout une bonne opération pour la pop, ça.
Non.
Pas du tout.
C'est surtout que, voilà, cette fois, la guerre est ouvertement déclarée de manière officielle et.
Entre Marvel et la Fox.
Voilà. Donc cette annulation aura lieu dans l'arc qui s'appellera The End is Forever.
Ouais.
et qui reprendra pour l'occasion la numérotation classique de Fantastic Four, c'est-à-dire on repartira au numéro 645, un truc comme ça.
Ouais, donc voilà. Vraiment bien marqué leur cours. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment pour clôturer, reprendre la numérotation classique et dire voilà, c'est terminé, la boucle est bouclée et on ne les reverra plus. Et voilà, je vais enchaîner sur la première des news qui m'a marqué, puisque moi je vais parler de No More Mutants, qui est un petit teaser qui a été apparu sur une des diapos d'un des panels Marvel, avec Scarlet Witch et Quicksilver, avec une lumière un peu rouge qui est projetée sur eux, et marqué en gros No More Mutants. Donc c'est pas la disparition des X-Men évidemment, mais c'est plutôt quelque chose, c'est une histoire qui ne sera pas une histoire des X-Men, mais une histoire des Avengers. Donc quand on sait que c'est une histoire des Avengers, c'est marqué No More Mutants, c'est qu'on voit Quicksilver et Scarlet Witch.
Ouais.
Encore une fois, coucou la Fox, on enlève les deux des X-Men dans nos comics et on va les faire passer Avengers.
Gros doigt, encore une fois.
Voilà. Donc c'était la deuxième étape de la déclaration de guerre pendant cette convention. Les autres news que j'ai conservées pour ma part de cette convention, Wolverine est mort, mais quand même, on va bien continuer à surfer sur le personnage et essayer de faire vendre des choses sur son nom, puisque dès janvier, on va lancer une série hebdomadaire, coucou d'ici, qui s'appellera Wolverines, avec un S, puisque ça va parler de tous les personnages apparentés à Wolverine, qui ont des similitudes avec lui, qui vont être réunis dans une espèce d'équipe un peu... Voilà, pour une série hebdomadaire. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais je suis pas très emballé.
Pas très optimiste, non.
Non, voilà. beaucoup plus emballé par contre par les futurs events qui ont été annoncés par Marvel. Je dis les futurs puisque évidemment Marvel n'est pas capable d'annoncer un seul événement. Il faut qu'ils en annoncent 50 000 pour occuper la place. Le premier, c'est un crossover entre les X-Men et donc les X-Men de Bendis et les Gardiens de la Galaxie. Ah bah de Bendis aussi, tiens. Pour une histoire qui va s'appeler The Black Vortex. Voilà, donc encore un event cosmique qui va lier les deux séries menées par Bendis. Enfin voilà, ça donne un peu l'impression que Bendis fait ses petites histoires de son côté et que l'univers Marvel évolue de son côté, mais que les deux sont pas ensemble. Donc bon, on trouvera dans cette histoire qui commence en février tous les personnages des Gardiens, et puis ça va impliquer plein d'autres séries, la série Legendary Star-Lords, donc la série Captain Marvel, la série Nova, les All-New X-Men et les Guardians de Bendis, et la série Cyclops. Voilà, donc c'est un gros event cosmique. Et puis le gros event, le plus gros qui a été annoncé par Marvel dès le premier jour de la convention, histoire de dire, voilà, vous êtes chez nous, vous êtes à New York, c'est Secret Wars, qui va être relancé en 2015. Donc Secret Wars, c'est un événement important dans l'histoire Marvel, des années 80, 1985 je crois, où tous les héros Marvel avaient été transportés sur une autre planète, dans une autre dimension, et avaient été forcés à se battre, enfin voilà, je vous passe... les détails, sorti en 1984 plutôt, voilà. Et ben, Marvel reprend le nom Secret Wars et va relancer une histoire comme ça en 2015, qui sera scénarisée par Jonathan Hickman, donc celui qui a fait Infinity et celui qui dirige les Avengers depuis le Marvel Now. On n'en sait pas trop plus pour le moment, à part un joli visuel d'Alex Ross, où on voit tous les héros, plusieurs versions même des mêmes personnages qui se mettent sur la gueule, donc... ça sent l'événement popcorn bien cool. Et puis pour terminer, la meilleure nouvelle de la convention pour moi, Jeff Lemire, donc a quitté Green Arrow et arrive chez Marvel pour nous faire une série sur l'autre archer, Hawkeye. En partenariat avec Ramon Perez qui sera au dessin. On a juste une couverture pour le moment. On sait que ça commence en février et ça risque d'être putain de super cool. Arnaud, tu as retenu une news qui concerne les Gardiens de la Galaxie.
Oui, bien sûr, ils vont, avec le succès du film, ils vont jouer là-dessus. Donc on avait déjà eu, comme tu viens de le dire, une série Star-Lord. Il y a eu une série Rocket Raccoon. Et donc maintenant, ils vont faire une série Gamora.
Logique.
Qui sera écrite en plus par la scénariste du film, Nicole Perlman. Et qui débutera au printemps 2015.
Ouais.
Voilà, c'est pour aller avec le succès du film. C'est sans plus.
Voilà. Est-ce que t'as retenu autre chose, toi, de toutes ces nouvelles de la convention ?
Non.
Non.
Je suis plutôt intéressé à la télé, on en a déjà parlé.
Et on en a déjà parlé dans l'émission de mardi, effectivement. Donc, Byron, tu as retenu, toi, l'annonce d'une jolie petite statuette.
Oui. Alors, d'habitude, je suis pas trop collectionneur de statuettes, parce que je trouve que c'est assez cher, mais là, je pense que je vais quand même me laisser tenter. C'est pour l'Artefix Kotobukiya, qui vont sortir une figurine de Red Hood de la série, justement Red Hood and the Outlaws. Et je trouve que, sachant que c'est en général, ces figurines sont quand même d'assez bonne qualité.
Elles sont magnifiques.
Ouais.
Je pense que, plus Red Hood et tout, je pense que là, je vais craquer pour ça.
Ouais, non, c'est des figurines qui sont vraiment magnifiques, qui sont de qualité. Effectivement, je pense que celle de Red Hood va être au moins aussi bien, quoi.
Et ils ont pas annoncé de date, par contre, hein.
Non, mais Artefix, c'est souvent, ils balancent les photos et puis ça tombe sur les catalogues preview juste le mois qui suit, ou voilà, donc ça va être... Il y a eu des visuels ou pas ?
Non, il n'y a pas eu de visuels en fait, il y a juste eu des petits screens, des artworks on va dire, mais
d'accord,
c'est...
Ouais, donc ça sera peut-être un peu plus long que pour les autres annonces, d'habitude ils mettent une photo quand même. Ok, bon en tout cas pour 2015 on aura cette statuette. Et puis, Étienne, tu as d'autres statuettes, toi, en stock.
Ouais, en même temps, ils ont annoncé des statuettes de Flash, mais pré-New 52, en fait.
Ouais.
Et donc, ça peut intéresser les gens, je pense. Et il y a surtout un Superman classique. On n'a pas eu de visuel, quoi, mais... Enfin, il n'y a pas de visuel, mais bon, ça peut être sympa. Et moi, surtout, celle qui va m'intéresser, je pense, c'est celle du prochain jeu Batman, en fait, Arkham Knight.
Ouais.
Il y aura une statuette du héros. Donc, à voir. Okay.
Toujours dans la gamme Artefix ou c'est chez d'autres constructeurs ?
Ouais, c'est dans la gamme Artefix, ouais.
Ok, donc ça va encore péter, quoi.
Ouais, ouais.
Donc c'est des figurines d'une hauteur à peu près
20
25,
cm, ouais,
20,
ça, ouais.
Même 25 parfois. Ah non, c'est une échelle 1 dixième, donc non, ouais, plutôt une vingtaine de centimètres, avec des effets sur la peinture qui sont à tomber, et qui coûtent en général entre 35 et 45 euros.
Ouais,
C'est
les
à peu
modèles qui
près...
sont, enfin, si tu les préco, ouais, c'est pas trop cher encore, mais sinon ça peut monter vite fait à 50, 60,
Ah bah
hein.
quand, surtout quand tu achètes en boutique en fait. Moi j'achète
Ouais.
surtout sur internet, donc je sais que sur Arconia en général elles sont dans les 40.
Ouais. Mais le Damien, tu peux l'avoir à 20, hein, à
Oui,
20
parce qu'il
le.
est plus petit.
Ouais.
Vu qu'il est en 1 dixième, lui il va faire 12 cm, 13 cm, donc forcément
Voilà.
proportionnellement. Voilà. Etienne, eh ben, garde la main du coup sur tes autres news.
Ouais, alors moi je. Le peu qu'on a eu chez DC, on va dire, ce qui m'a surtout marqué, c'est le prochain arc chez les Justice League, en fait,
Ouais.
où Jones a confirmé, en fait, que, bon, si vous suivez, vous allez découvrir que Luthor, il va prendre une part importante, en fait, dans la Justice League. Et là, il confirme vraiment que dans le prochain arc, il sera au centre de l'histoire, en fait, ça va s'appeler Amazovirus. Et du coup, la Justice League devra faire un choix entre Luthor ou sauver des vies. Et donc ça va promettre du beau
Intéressant.
challenge. Ouais.
Intéressant. Bah déjà, l'arrivée de Luthor suite aux événements de Forever Evil est intéressante, mais
Bah.
effectivement, le fait qu'ils en fassent quelque chose pour une grande histoire, c'est encore plus
Ouais.
intéressant.
D'ailleurs, il est arrivé, tu sais quoi? Parce que j'ai pas lu du
Pardon?
tout Forever Evil. J'ai pas du tout lu Forever Evil.
Oui.
Oh là là.
Mais sur le fait accompli que Luthor était dans la Justice League, donc sur le coup, c'est quand même hyper déroutant.
Ah bah Forever Evil de toute façon était important, a changé pas mal de choses
Ah
pour
oui.
les héros de l'univers DC, donc c'est quelque chose à suivre. On reviendra sur Forever Evil une fois que ça sera terminé en VF lors d'une émission, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses et c'est assez intéressant.
Ouais, Lille, franchement, il est super, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré.
Et puis Étienne, tu as également
Oui.
repéré une news concernant une application.
Oui, alors en fait, c'est la Warner qui a annoncé en fait qu'ils allaient développer une application ouais, pour développer en réalité virtuelle la Batcave avec le prototype qui est actuellement le numéro 2, l'Oculus Rift, et bientôt le Samsung Galaxy Gear. Donc en fait, c'est un casque que vous mettez sur la tête et vous pourrez visiter en fait la Batcave, mais ça sera la version Batcave de The Animated Series de 92, celui qui a été fait par Bruce Timm.
Ok.
Donc comptez sur moi pour vous faire une review, ils ont annoncé pour cet hiver apparemment.
Eh ben, on guette ça et ouais, on attend que tu nous dises un peu ce que ça vaut. Et puis, oui, t'allais dire quelque chose?
Non, non, c'est bon.
Et puis Byron, alors ce n'est pas par rapport à la New York Comic Con, mais ça mérite quand même qu'on en parle. Tu voulais nous parler, toi, du Green Arrow numéro 35, qui est le premier numéro depuis le départ de Jeff Lemire.
Ouais, et bah ça se ressent vraiment, vraiment beaucoup, parce que c'était vraiment horrible. Sachant que la personne, bah je sais plus qui c'est le
C'est
scénariste d'Arrow.
Guggenheim, c'est...
Ouais, bah le scénariste d'Arrow, justement, qui l'écrit. Et donc, du coup, j'avais un peu cette appréhension avant de le lire, justement, de revoir exactement les mêmes choses que la série, mais transposées en comics. Et bah, du coup, c'est à peu près ce qui se passe, quoi. Et bah, déjà, les dessins sont vraiment. Oh
Ah, c'est pas beau. Enfin, ça change de Andrea Sorrentino, c'est clair.
la vache.
Et même le scénario, il a. Tout ce que Jeff Lemire avait construit en l'espace de une case, il a tout viré, il a tout
C'est tout
supprimé.
balancé, ouais. C'est tout foutu en l'air.
Le cliffhanger était vraiment pourri et tout. Franchement, c'était.
Attention, spoil pour ceux qui ne lisent pas. Donc, genre, plus de demi-sœur, plus de. Comment ça s'appelle? De Shadow, plus de tout ça.
Ouais. Bah alors il dit, je crois qu'ils sont dans une voiture, et il lui dit alors Emiko est parti, Shadow aussi, lui s'est barré, donc t'as plus que moi. Voilà.
Voilà.
Non. Oh
Voilà.
non, mais ils ont pas.
Il n'y a même pas
Non, mais ils ont pas.
d'explication. Personne, ça sort comme ça de là. On ne sait même pas pourquoi.
Comme ça sur le boulot de Lemire, il a certainement fait l'un des meilleurs arcs de Green Arrow depuis depuis des années, quoi.
Ouais. Bon, en même temps, à l'heure des charges, le mire a fait la même chose en une vignette en faisant exploser tout ce qui s'était passé en 17 numéros avant lui. Donc après, c'est. Voilà.
Ouais, mais l'émir, il l'avait fait quand même déjà avec. C'était un peu plus de classe. Et il s'était quand même, par exemple, ben pour Fif et l'autre assistante, il s'en était servi, quoi. Et je veux dire,
Oui, un petit peu, oui.
il a pas tout balancé en une bulle, quoi,
C'est
comme lui,
vrai,
là.
c'est vrai.
Et il a fait ça pour faire quelque chose de bien. Ça a l'air d'être un peu de la merde, quoi, quand même.
Ah bah de toute façon, puis je pense qu'on ne saura pas, hein, parce que moi c'est fini.
Bah, moi aussi.
J'arrête les dégâts. C'est pas la peine
Ouais.
d'aller voir ce qui va se
Ouais,
passer après. Ouais, ça va être vraiment la pub pour la série télé, quoi. Il n'y aura plus vraiment de différence entre la série télé et la série comics. Enfin voilà, on évoluera dans des univers qui seront pareils avec les mêmes personnages et surtout avec le même ton, quoi. Donc c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Bref, on va passer au thème de la semaine. On va pas s'appesantir plus que ça sur ce numéro de Green Arrow. Le thème de la semaine, Bat Burton versus Bat Nolan.
aïe, aïe.
Aïe aïe aïe, comme tu dis, il va falloir pas départager aujourd'hui deux visions de Batman au cinéma, parce que c'est quand même deux visions très différentes, deux manières d'adapter Batman différentes, qui ont chacun leurs fans, chacun leurs partisans, on va dire. La désadaptation donc par Tim Burton, à savoir Batman en 1989 et Batman Returns en 1992, intitulé Batman le défi en français. Et puis la trilogie de Nolan, donc Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Pareil que pour Marvel vs DC il y a un mois, 5 rounds pour essayer de démarquer ces deux choses. On va commencer avec le premier et on va se demander en quelques minutes qui est le meilleur Bruce Wayne, Batman, entre la version Burton et la version Nolan. Clément, à toi d'ouvrir.
Alors, ça va être dur, dur, dur. C'est vraiment deux Bruce Wayne et deux Batman différents, comme tu l'as dit. J'aurais tendance à dire pour les Nolan, mais d'un côté, le Batman ou le Bruce Wayne de Burton est assez intéressant sur certains points. C'est limite plus proche du comics, en fait. C'est assez sombre, assez torturé, en fait. Même en finalement ne s'étendant pas sur comment il est devenu Batman, contrairement au film de Nolan, mais d'un côté avec les films de Nolan, ça vient bien expliquer sa psychologie, son évolution. Donc c'est très dur. Donc honnêtement, je peux pas réussir à l'un n'a pas l'ascendant sur l'autre parce que c'est vraiment deux Batman diamétralement opposés, même de Bruce Wayne. Mais tous sont très bons dans le genre qu'a voulu donner le réalisateur. Donc pour moi, je mettrais. Ouais, non, je peux pas les départager. C'est pas possible.
Ok, on verra plus tard comment tu répartis tes points. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur et parler de son Bruce Wayne ou son Batman préféré parmi les deux?
Moi, je rajouterais juste que je trouve, enfin, c'est exactement ce que je pense comme Clément, en fait. La seule différence, je trouve que quand même, Christian Bale, je trouve qu'il incarne mieux physiquement un vrai Bruce Wayne Batman que, comment il s'appelle,
Michael Keaton.
Michael
Ouais.
Keaton, quoi. Michael Keaton, bon,
Pas le même époque.
non. Ouais, c'est pas le même Batman, mais bon, quand même, enfin, je l'aurais vu un peu plus Playboy, quoi, enfin, je sais pas.
Il fait un peu gringaler, Keaton.
Ouais, c'est ça, c'est.
C'est pas assez charismatique.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça, charismatique, voilà. Mais bon,
Là.
franchement, c'est deux visions différentes et les deux sont bons. Mais voilà.
Keaton incarne un Batman plus. Ben, j'ai l'impression qu'il est plus torturé. Et alors que t'as des moments un peu amusants dans les Batman de Nolan, quand Bruce Wayne fait semblant d'être un playboy millionnaire qui s'en fout de tout, c'est assez drôle par moments. Alors qu'on retrouve pas ça dans les Batman de Burton. C'est une approche différente.
Mais en fait, je pense que c'est la vision est construite sur les Batman de l'époque, hein. Enfin, maintenant, tu regardes les Batman New 52, Ouais, ça colle. Enfin, je trouve que ça colle vachement avec Nolan, quoi. Tandis que Burton, voilà, c'est. Ça colle plus avec les anciens Batman, les premiers, ouais.
Bah, dans
les
premiers période, Batman. C'est une. C'était. Enfin, je sais plus trop, mais. Halloween, tout ça, c'est sorti juste avant. C'était dans les années 80. Donc, c'est vraiment la période des Batman très sombre. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ça au cinéma avec, avec Burton.
Ouais.
Derrière.
Comment ?
Il y a aussi Burton derrière. Burton, c'est pas le mec qui va te faire des trucs forcément tout joyeux.
Voilà, aussi, il y a, des, quand même, y a des moments assez drôles dans ces films. Mais c'est, sûr, c'est complètement différent de Nolan.
Ça n'a rien à voir. C'est deux visions différentes complètement. Et deux époques différentes, finalement.
Après, moi, je reprendrai. Je suis tout à fait d'accord avec un des commentaires qu'on a eu quand on a posé la question aux auditeurs, avec Régis, qui nous dit que Keaton est un meilleur Batman alors que Bale est un meilleur Bruce Wayne.
Ouais.
Et je suis bien d'accord avec ça. On enlève les effets de costume, les effets avec les espèces de la cape, etc. C'est plutôt lié, à mon avis, à l'époque et aux effets spéciaux et aux trucs qui n'étaient pas au même niveau qu'aujourd'hui. Mais le Batman de Keaton est plus impressionnant, ça. C'est plus le Batman, comme on peut voir dans les premiers comics, début de Batman qui inspire la peur.
Voilà, que
l'autre, c'est plus
Batman de Christian Bale, il a tous ses gadgets.
Il a tout ça.
Il a montré avec ça qu'il réussit.
Il a surtout sa voix de cancéreux.
Bah, je pense que.
Ouais, j'avoue.
Je pense que le Batman de Burton est plus gothique, il fait beaucoup plus peur, alors que le Batman de Nolan, en voulant l'approche réaliste, il sait plus que c'est un mec qui va faire une mission un peu Black Ops comme ça, ou quelque chose dans le genre là.
Oui, mais ça, c'est à cause des réalisateurs.
Oui, voilà. Celui de Burton est meilleur. C'est pour ça.
Ok. Quelque chose à rajouter sur Bruce Wayne Batman ?
Non.
Avant de passer à la répartition de vos points. Donc, je vous rappelle, comme pour Marvel versus DC, vous avez chacun 2 points à attribuer. Donc, soit 2 points pour Burton, soit 2 points pour Nolan, soit 1 point chacun, concernant donc le meilleur Bruce Wayne Batman. Clément, tu as été le premier, donc tu seras le premier à donner tes points.
Comme je l'ai dit, je peux pas départager les Batman de Burton et de Nolan. Donc, je suis obligé de leur mettre 1 point chacun.
Ok. Arnaud ?
Comme on vient de le débattre, l'un est meilleur en Bruce Wayne et l'autre est meilleur en Batman, donc 1 point chacun.
Etienne ?
Pareil, 1-1, parce que je peux pas les départager, ils sont tous les deux bons.
Ok, Byron ?
Moi je mets quand même 2 points pour les Batman de Nolan.
2 points pour Nolan. Ok, et moi je ne départage pas non plus, je donne également 1 point à chacun uniquement pour ce que j'ai dit quand j'ai repris le commentaire de Régis. Un meilleur Batman d'un côté, un meilleur Bruce Wayne de l'autre, donc 1 partout. Donc ce qui fait 4 points pour notre côté et 6 points pour Nolan et 4 points pour Burton. Et puis vous, auditeurs, eh bien vous n'avez pas été capable de départager les deux versions de Batman et de Bruce Wayne, puisqu'on a droit à une égalité parfaite.
Non.
C'est dingue. Voilà, de 43 points pour chacun. 43% pour chacun. Et puis le reste étant les personnes qui ont dit égalité.
Oh la blague.
Donc en termes de pourcentage et pour le score, on comptera donc 50-50 pour le calcul. On va passer au deuxième round et on va voir si on arrive à mieux départager ces deux visions. On va parler de Gotham maintenant. Alors Gotham, que ce soit son aspect visuel, les lieux importants de Gotham, mais également les personnages importants de la ville, le maire, les flics, Gordon, enfin tout ça, enfin ouais, tout ce qui fait Gotham. Et Byron, je te propose d'ouvrir pour ce round.
Oui. Je me souviens que dans le Gotham de Burton, on avait vraiment une Gotham un peu beaucoup plus sombre, beaucoup plus avec un effet beaucoup plus gothique. Et la ville jouait vraiment un rôle dans. C'était vraiment un personnage, comme on pouvait vraiment le voir dans les comics. Alors que dans les Batman de Nolan, ils étaient beaucoup plus. C'était beaucoup plus une ville un peu plus. Elle était froide, elle n'inspirait pas grand chose. Ça aurait pu être. Quelle ville, ça aurait été exactement la même chose. Donc je pense que pour moi, même sans conteste, je pense que les Batman de Burton sont beaucoup mieux.
D'accord. Quelqu'un veut répondre, Arnaud, par exemple ?
Oui, je suis entièrement d'accord. Le Gotham de Burton est vraiment, l'architecture elle-même est plus gothique, elle est plus sombre, plus sale, plus crasseuse. C'est vraiment l'idée qu'on se fait de Gotham version comics. Alors que, la Gotham de Nolan, c'est une ville banale, une grande ville, une grande métropole américaine banale, comme on en pourrait voir des centaines. Ils ont pris Chicago, ils auraient
ouais,
pu
c'est ça,
prendre
ouais,
n'importe
c'est.
laquelle. Hein. Et donc, elle a pas de. J'ai envie de dire que la Gotham de Burton a une âme à part entière, c'est vraiment un personnage à part entière, alors que pour Nolan, c'est juste un réceptacle pour avoir Batman et c'est plus les criminels et les habitants qui pourrissent la ville plutôt que la ville elle-même qui est pourrie. Donc plutôt que Gotham de Burton.
Ouais. Moi, après, dans le Gotham de Nolan, on en parlait dans notre émission sur Gotham City il y a juste 2 semaines dans le podcast. Le Gotham de Nolan est complètement différent dans la première version, dans le Batman Begins, que dans les autres, en fait. Le Gotham qui est représenté dans Batman Begins, la partie, en tout cas, de la ville qu'on voit, c'est vraiment celle qu'on peut s'imaginer et qui prend un peu la succession de la vision de Burton. C'est comme s'il avait voulu faire une transition entre sa vision qu'il a proposée après et la vision de Burton de avant. C'est un peu un mélange des deux, en fait, dans Batman Begins. On a le monorail, on a un aspect très gothique de la ville. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, moi, ce Gotham-là de Batman Begins. Pour moi, c'est même pas ni le Gotham de Nolan, ni le Gotham de Burton que j'aime bien, c'est le Gotham de Batman Begins.
Oui,
un peu le mix, en fait.
Mais tu
les
le
deux.
Retrouves pas dans les autres Nolan aussi.
Non.
Moi, je trouvais ça. Je suis du même avis que Mathieu concernant le Gotham de Batman Begins. Je trouve que c'est le Gotham moi qui me parle le plus. C'est vraiment sinistre, glauque. Tu sens que Gotham inspire un danger. Et je pense que ça vient du fait aussi que t'as quand même une grosse partie du film qui se passe dans les Narrows, donc dans les coins les plus crédibles de Gotham. C'est ce que j'avais dit aussi, c'est que du coup, on n'a pas la même vision de Gotham dans les artistes. Justement parce que c'est une autre situation dans Gotham, c'est l'un se passe 2 ou 4 ans après je crois Begins, l'autre 8 ans après 4 ou 8 ans je crois après The Dark Knight, tout ça. Donc ça peut jouer là-dessus. En fait la vision de Gotham dans les films de Nolan à mon sens évolue à mesure des différents films. Et après, c'est sûr que c'est complètement opposé à celle des films de Burton. Déjà, je pense que ça aide beaucoup parce que c'est vraiment, c'est dans le délire de Burton. C'est Gotham en soi, c'est gothique, c'est quelque chose de sinistre, qui n'inspire pas confiance. Donc, ça va déjà plus dans le côté de Burton. Mais c'est vrai que le Gotham des comics est davantage mieux retranscrit dans l'ensemble des Batman de Burton. Maintenant, effectivement, les Batman Begins retranscrivent bien aussi le Gotham des comics.
Étienne,
moi, c'est Burton et Nolan. Enfin, je veux dire, Nolan, ça a été. Enfin, j'en ai pas gardé spécialement un bon souvenir. Tandis que Burton, c'était vraiment une vision noire et non. Pour moi, c'est Burton. Largement, quoi.
Après, quelque chose qui aussi pourrait me faire pencher du côté de Nolan, c'est justement tout ce qui ne concerne pas la ville en tant que lieu, mais les personnes qui y vivent. Le Gordon de Nolan est tellement mieux que le Gordon de Burton. Même les habitants en général, le maire, toutes les personnes qu'on voit dans Gotham City ont plus l'aspect des Gothamites que ce qu'on peut voir chez Burton. Enfin, c'est... Et du coup, surtout pour le Gordon. On peut pas parler du Bullock puisqu'on n'a pas de Bullock dans les films. On a une tentative de Bullock dans le premier film de Burton.
Oui, mais bon, vous m'avez l'oublié.
Mais il porte pas le même nom et voilà. Mais clairement, c'est ce personnage-là qui est adapté. Et du coup, ouais, c'est peut-être ce petit truc qui pourrait me faire pencher du côté de Nolan. Encore que quand on voit ce qu'il a fait de la ville dans Dark Knight Rises, voilà quoi. Quelqu'un a quelque chose à rajouter concernant la Gotham des films? Alors, bien, même chose. On va attribuer nos points. Et on va commencer. Donc, c'est Byron qui a ouvert, c'est ça? Donc, Byron, vas-y.
Ouais, c'était 2 points pour les Batman de Burton.
Donc on a 0 pour ceux de Nolan.
D'accord. Arnaud.
Pareil, 2 points pour Burton.
Etienne.
2 points pour Burton.
Clément.
Ouais, c'est dur. J'ai pas de courage, donc je vais mettre 1 point par contre.
Je me rappelle, il y a un mois, le maître fait insulter parce que je ne faisais que partager mes points. Et moi, je donne 2 points à Nolan pour cette version Batman Begins, qui est pour moi la meilleure, et puis pour ce côté Gordon, etc. Voilà. Je ferme les yeux difficilement, mais je ferme les yeux pour Rises et compagnie. Ce qui fait donc pour nous 7 points pour Burton et 3 points pour Nolan. Et puis, de votre côté... vous êtes alors je partage à chaque fois que je vais donner les scores, je partage tous ceux qui ont dit égalité, je donne la moitié à chacun, ce qui donne au total 57% pour Burton et 43% pour Nolan du côté des auditeurs. Ouais. Voilà, un peu la même tendance que nous finalement.
Ouais.
Troisième point sur lequel on va discuter, on va parler du Joker maintenant et de tous les autres vilains en général. J'ai choisi d'intituler ce round le meilleur Joker, mais on peut s'attarder sur les autres vilains sans aucun problème. Et ça, puis c'est ça. Moi qui vais ouvrir pour ce round. Si on parle du meilleur Joker, c'est ni celui de Burton, ni celui de Nolan, c'est Heath Ledger.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et si on parle des meilleurs vilains, je vais juste dire un truc pour défendre Nolan. Le pingouin de Burton.
Ah ouais, ouais.
Ah oui, là.
C'est un scandale. c'est juste un scandale, ce pingouin-là. J'ai revu le film aujourd'hui. J'avais oublié complètement Batman le défi, Batman Returns en VO. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah oui, bah, je comprends pourquoi je l'oublie. Parce que le pingouin, c'est un massacre.
Il est ignoble, il fait peur.
Bah, il fait peur à la rigueur, c'est
normal.
Ça va. Mais d'où le pingouin, il a les mains palmées.
Bah, il a voulu ressortir.
Qu'est-ce que c'est que ces pingouins avec les petites fusées sur le dos?
C'est mignon.
Non, c'est pas mignon. C'est juste con. En plus, ils sont moches.
Arrête, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pleuré à la fin.
Bah oui,
je devais avoir 5 ans, mais quand même.
D'où le pingouin, c'est un taré. Il est pas taré, le pingouin, c'est un parrain de la mafia. C'est un mec super brillant, super intelligent, qui calcule tout, qui dirige son casino et toute sa bande. Voilà, c'est un vrai parrain de la mafia. Et là, c'est un Joker-like en fait, dans sa personnalité, dans sa construction. Et enfin, c'est pas du tout le pingouin.
Mais je pense qu'il vaut mieux le prendre comme une sorte de zéroyeur, tu vois. Enfin, il a réécrit les origines. Hein. Il a été abandonné par sa famille parce qu'il était différent.
D'ailleurs, il a été abandonné. Il a été abandonné par sa famille, tout ça. Il refait surface et tout. Comment on arrive à savoir que c'est Oswald Cobblepot ?
Eh bien, parce qu'il va dans le cimetière à un moment.
Mais lui, il connaît pas son nom. Il a été abandonné bébé.
Mais si, mais tu vois, il va dans une bibliothèque et du coup, grâce à lui, il trouve.
Ah bah si c'est marqué dans les livres alors. On est sauvé, c'est bon. Du coup, qui c'était Étienne qui parlait juste avant ?
Oui.
Vas-y.
Bah, moi j'ai trouvé le pingouin convaincant. Hein. Enfin, ok, c'est vraiment pas la même origine que ce qu'on a eu dans les comics où il sortait de l'aristocratie, tout ça. Bon. Mais non, enfin moi j'ai bien aimé le pingouin. Bon bah après ouais, les pingouins qui ont des fusées, bon ça c'est discutable, mais le personnage, son jeu d'acteur, moi j'ai trouvé qu'il était magnifique quoi. Moi j'ai adoré son jeu d'acteur quoi. Enfin, il joue vraiment le rôle du cas social quoi. C'était vraiment
Mais justement, c'est pas un cas social, c'est pas un teubé le pingouin.
Ouais, mais là, il
n'a jamais lu les comics.
Bah,
il connaît pas les comics. Lui, c'est juste amener son histoire. Il veut pas adapter. Il veut amener son histoire. Et c'est les personnages tarés comme ça qu'il aime. Et c'est ça qu'il veut apporter. Après, le pingouin, c'est juste une base. Et après, lui, il réinvente. Attends. Si on accepte ça, on apprécie le personnage.
Oui, parce qu'en tant que film, c'est un bon film. Je dis pas le contraire que ce Batman le défi ou le Batman de 89. Mais pour moi, encore plus pour le deuxième, c'est pas Batman.
Mais vous dites qu'il a jamais lu de comics, mais le Joker, il est bien tombé dans une cuve de Ace Chemical. Hein.
Oui, enfin, il s'est renseigné quand même, je veux dire, mais bah, il est pas un fan de comics qui a voulu adapter Batman parce qu'il est fan depuis
son enfance. J'ai beaucoup aimé son premier Batman avec le Joker, machin, tout ça, que je trouve vraiment très bien, en adaptation super réussie de l'univers de Batman et tout ça. Et pour moi, il a complètement dérapé avec le deuxième. Il est parti en vrille. Ça y est, il a eu du crédit avec le premier. Entre-temps, il a fait Edouard aux mains d'argent, si je me trompe pas. Mmh. Donc, il a obtenu un autre crédit. Et du coup, la Warner a dû lui laisser les coups des franches pour faire sa version, sa libre adaptation de Batman. Parce que ça devait être la hype à l'époque aussi de Tim Burton. Devait être un peu très hype, très bien vu, etc. Et du coup, on s'est dit, forcément, Batman par Tim Burton, ça a marché la première fois. En plus, là, il va faire Edouard. On va le laisser faire ce qu'il veut, et résultat, ça donne un film de Burton, mais pas un film de Batman.
C'est ça. Exactement.
Et bon, après, on reviendra plus tard sur là-dessus, parce qu'on parlera de la réalisation plus tard, mais son Joker, par exemple, est très bien.
Ah oui,
en dehors du fait qu'il ait un nom, qu'il s'appelle Jack Napier. Ça, à la rigueur, c'est une adaptation, on peut l'accepter. Mais son Joker est très bien, son rire, enfin, le rire du Joker,
J'ai un doute, est-ce que la vision de Burton, est-ce que c'est pas lui qui est supposé avoir tué les parents de...
Si,
c'est lui qui a tué les... C'est dans la version de Burton, c'est Jack Napier qui tue les... Oui, c'est vrai. Bon, pourquoi pas. Moi, ça m'a pas choqué. Et si on ouvrait maintenant le dossier Catwoman?
On va s'énerver, là.
Eh ben Arnaud, vas-y.
Je sais, tu l'aimes pas parce qu'elle survit, etc. Mais
ah non, mais ça, c'est le fait qu'elle survive d'une chute de... C'est pas ça qui me dérange, c'est la manière dont elle revient. C'est juste parce que des chats lui croquent les doigts et lui lèchent la gueule, ça y est, elle ressuscite.
Oui. C'est trop mal, tu vois.
Au secours. Mais bon, à part ça, ça, on peut le mettre entre parenthèses pour parler juste de Catwoman, si tu veux.
Ah, c'est pas pire que le film Catwoman où un chat lui souffle à la gueule. Elle devient un chat.
Voilà, donc je pense qu'il y a un gros problème avec Catwoman au cinéma en fait. En fait, Catwoman au cinéma, c'est juste.
Non. On fera un podcast peut-être là-dessus sur tous les pires adaptations.
Oui, je pense qu'on fera un truc là-dessus pour rigoler un peu. Catwoman. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
L'actrice est vraiment convaincante. Michelle Pfeiffer est géniale dans le rôle.
C'est une composition, en tout cas, un jeu d'actrice. Excellent, elle fait une performance en tant qu'actrice qui est très bonne, c'est clair. Maintenant, le personnage de Catwoman,
moi j'ai pas accroché.
Ah, moi je l'adore,
moi j'ai bien aimé sa tenue.
Il y a
2-3
détails qui fonctionnent pas, mais
t'as bien aimé sa tenue, ça m'étonne. Tiens, Etienne, ça,
c'est une Catwoman, mais c'est pas vulgaire. Enfin, je veux dire,
cela dit, niveau costume, elle se rapproche vraiment de ce qu'on peut voir dans les comics.
Regarde dans les comics, c'est bandade là.
Elle me dérange pas parce qu'elle est folle, mais bon, ça c'est un parti pris. Burton a envie que tous ses méchants soient fous, j'ai l'impression. Après, ce qui me dérange, c'est le Selina Kyle versus Catwoman, où t'as l'impression qu'il y a un fusible qui saute quand elle redevient Catwoman. Il y a un truc qui doit se passer, d'avoir un interrupteur dans le cerveau. T'as pas l'impression d'avoir la même personne, en fait. C'est...
Bipolaire, quoi, en fait. Hein.
Ah, c'est...
C'est une renaissance.
Ouais.
Ouais, c'est hyper chaud. Mais bon, on peut parler également peut-être de Bane.
Oh.
Du côté de Nolan, puisqu'il fait partie des... Et de Ra's al Ghul, du coup, on va faire un pack. En parlant des méchants du côté de Nolan, puisqu'on a parlé de ceux de Burton, mais qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là?
Le Ra's al Ghul est très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Liam Neeson est très bien. C'est la première fois, du coup, forcément, c'est pas aussi. C'est la première fois qu'on voyait vraiment une exploitation du personnage au cinéma, donc ça joue. Mais moi, je le trouve très bien. Bane, disons. Quand tu arrives avec un Bane version Nolan après avoir vu un Bane version Batman et Robin...
Non, mais il compte pas celui-là.
Alors, c'est pas grave, on n'est pas dedans aujourd'hui. On n'a pas de diversus Schumacher. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est dans une autre continuité.
Ouais.
Voilà.
Earth 2.
Ouais, c'est sur Terre 2, ça. C'est des films.
Après, voilà, il y a pas une certaine difficulté par rapport au comics. Et moi, le Bane est très bien. Enfin, le jeu de comment ça s'appelle,
Tom Harris. Tom
ouais, c'est
Hardy.
Tom Hardy,
Hardy. Ouais.
Ouais,
Tom Hardy.
Ouais.
Et de beaucoup, enfin, je trouve que son jeu pour Harvey Dent, c'est vraiment dans le regard. Enfin, il y a tout qui est dans le regard. Moi, ça m'avait impressionné sur le coup. Quelques...
Bah, tu vois que ses yeux en même temps.
En même temps, valait mieux que ça passe dans le regard, oui, parce que sinon, ça t'est raté.
Tu vois que ses yeux pendant trois quarts du film.
Oui, c'est ça, mais enfin, bref, c'est... enfin, moi, il m'avait beaucoup convaincu. Mais j'avais rien à dire là-dessus.
Ouais. On a aussi Double Face, tiens, je vais pas penser à Harvey Dent Double Face qui apparaît aussi dans Nolan, enfin
oh là
dans
là
la
là.
Version de Nolan.
Non, ouais.
Ah, j'entends Étienne qui fait oulala.
Bah bon, bon.
C'est un dossier délicat, je suis d'accord.
Oui. Le choix d'acteur, je trouve que bon, pas spécialement adapté au personnage des comics. Voilà.
Pas forcément judicieux.
Par contre, celui de Nolan est très très bien, enfin très bien adapté. Il est convaincant, franchement.
Oui, oui.
Le jeu d'acteur est bien. On sent vraiment qu'il y a une dualité dans les personnalités et c'est vachement. Ouais.
Après, le Harvey Dent de Burton, je le compte pas dans les méchants parce qu'il est pas double face dans ces films-là. Il est juste
avoir,
procureur dans le premier film.
10 phrases à tout péter
c'est ça,
dans
c'est ça.
Le
Donc,
truc. Ouais.
Pour moi, ça reste le Harvey Dent, ça reste dans Burton. Pour moi, c'est l'endocadrician.
Oui, oui, parce que oui, par son rôle dans Star Wars, oui.
Ouais.
Oh, il me l'a fait oublier quand même parce que justement c'est maintenant que tu me dis c'est Lando que du coup je fais le rapprochement et que toi je l'avais même pas vu dans les donc ça m'a pas gêné. Bon en même temps Lando Calrissian quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire encore pour défendre l'un ou l'autre?
Talia Al Ghul.
Oh non.
Mais c'est parce que on préfère peut-être l'oublier sinon
ouais.
On va rien donner à Nolan.
Ouais.
Talia Al Ghul, bah j'ai envie de dire Pandémor.
Marion Cotillard.
De Burton on en a parlé, mais du coup on n'a pas parlé du Catwoman entre guillemets de Nolan.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est là aussi. Elle.
Oui.
Bah voilà.
Bah, là, j'étais plus confortable avec cette Catwoman là parce que c'est celle que j'ai lue dans les comics, c'est celle de.
Ouais.
C'est celle qu'on voit dans Long Halloween et dans des choses comme ça et ça m'a pas. J'ai pas été dépaysé, si tu veux.
Enfin, c'est pas spécialement Catwoman, c'est juste une.
C'est Selina Kyle, quoi.
C'est juste une voleuse de haut niveau, c'est tout. Hein.
Voilà, et du coup.
Jamais on l'appelle Catwoman et elle a même pas de costume, rien.
Elle m'a laissé de glace. Non, elle a pas de costume puisqu'elle s'habille déjà naturellement comme une. Voilà. Donc...
Puis les lunettes qui se relèvent et qui font des
ondes
de chat.
Oh,
ouais,
ça, c'est parce que c'était in à l'époque. C'est comme ça, je pense. Mais ouais, non, elle m'a laissé de glace parce que j'ai ni été surpris ni été dérangé par.
L'actrice
ouais,
est bien,
non.
Mais sans plus.
C'est Hathaway, c'est ça.
Oui.
Anna Hathaway.
Voilà. Bien. Eh bien, on va attribuer nos points alors. Eh bien, c'est moi qui ai commencé, donc je vais commencer. Et je sais pas si le Joker de Burton va le sauver pour lui donner un point. Non, deux points pour Nolan. Étienne.
Bah moi c'est pareil, c'est Heath Ledger, franchement il m'a transcendé, je mets deux points à Nolan parce que voilà, c'est...
Okay.
Il les bat tous.
Clément.
Bah, rien pour le Joker de Nolan, enfin, Heath Ledger, deux points à Nolan, même si à côté j'ai quand même beaucoup aimé certains méchants dans Nolan, on a d'ailleurs oublié Serco. Serco l'épouvantail.
Ah oui, dans Batman Begins, c'est vrai. Byron.
Deux points pour Nolan aussi.
Et Arnaud, grand chelem pour Nolan ou pas?
Sortez les tomates. Un point partout.
Ok.
Oui.
Ok.
Ils apportent des choses différentes l'un et l'autre.
Oh, oui, non, mais ça m'aurait embêté qu'on ait 10-0, donc c'est très bien que tu donnes un point à Burton quand même. Donc 9-1 pour nous concernant Nolan et pour vous auditeurs 71% pour Nolan et 29% pour Burton. Voilà. Donc pareil, il n'y a clairement pas photo entre les deux, pour vous comme pour nous. Peut-être aussi le fait qu'on les retrouve tous d'un côté, alors que de l'autre, il y en a surtout deux qui sont mis en avant et on ne voit pas les autres. Du côté de Burton, c'est peut-être ça aussi qui a fait pencher la balance. Je ne sais pas.
Et pourtant, Jack Nicholson a fait vraiment une très bonne prestation. Hein. Enfin,
et voilà. Donc j'ai envie de dire Jack Nicholson 29% et Nolan 71%. Voilà. On continue avec le quatrième round et peut-être qu'il va y avoir bataille ici puisque on va parler de la meilleure adaptation de l'univers comics. Clément, qui pour toi a mieux adapté l'univers comics entre Burton et Nolan?
Aujourd'hui, c'est toujours une question de vision parce que c'est, enfin comme on l'a dit, on dit même depuis le départ, c'est deux visions diamétralement opposées. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire quand même que j'ai préféré les Batman de Nolan. J'accroche déjà moins de toute manière à l'univers de Burton en temps normal. Son premier Batman est très bien. Je l'ai vu qu'une fois, mais j'avais bien aimé. J'ai beaucoup de mal aussi avec Batman Returns. Maintenant, les films de Nolan pour moi me parlent beaucoup plus parce que je trouve qu'ils exploitent certains pans de Batman qui sont pas assez exploités à mon goût dans les films de Burton. On retrouve plus le passé du personnage, son évolution, comment il devient. Donc ça déjà, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas ça du coup dans les autres Batman. En termes de méchants, on a plus large panel dans les films de Nolan. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, mais c'est pareil. Moi, j'ai préféré globalement la vision de Nolan pendant les méchants. Après, en film pur, clairement, par exemple, The Dark Knight, il n'y a pas photo, quoi. T'es obligé de dire. Enfin, pour moi, je suis obligé de dire que c'est forcément meilleur que Burton. La meilleure adaptation de l'univers comics en termes globaux. C'est Nolan et c'est deux Dark Knight en termes de pure adaptation. Voilà.
Quelqu'un veut réagir? Étienne, peut-être?
Non, enfin, Nolan, il a su s'adapter, enfin, il a vraiment bien réussi à adapter ses films à l'univers qui était actuel de Batman. Alors que Burton, il a fait un effort pour le Joker, mais après. Il est parti un peu en cacahuète, quoi, donc c'est. Ouais, enfin. Pour moi, c'est Nolan qui a réussi à faire une meilleure adaptation, quoi.
Arnaud, je t'ai entendu pester tout à l'heure.
Non, pas du tout. Parce que pour une fois, je suis d'accord. Si, c'est vrai, parce que Nolan est un fan de comics, il s'est basé sur des histoires connues pour faire ses films. Et on ressent peut-être plus l'ambiance des comics dans ses films. Après, c'est tourné dans sa sauce à lui, avec sa logique à lui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai qu'il est plus proche des comics, du réalisme des comics, plus que Burton. Et surtout par rapport à l'adaptation des personnages. Donc, oui, Nolan réussit mieux son coup.
Mais je pense que tu as mis le doigt effectivement sur quelque chose en disant le réalisme. En parlant de Nolan. Nolan a adapté le côté réaliste de Batman et Burton a adapté le côté un peu fantasy et gothique également et le côté détective.
Mais peut-être juste pour rebondir sur ce que vous dites, peut-être à l'époque, je suis pas maintenant un spécialiste de cette époque-là, mais peut-être les comics de Batman étaient plus justement comme tu le dis plus gothiques et faisaient plus pas moins kid, plus kid, je dirais, mais c'était plus justement dans l'esprit de Burton, alors que là, maintenant, les comics d'aujourd'hui sont quand même assez modernes et représentent plus ceux de Nolan.
C'est sûr que pour citer un comics de l'époque, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Long Halloween, qui est tombé entre les deux films, effectivement, on est plus dans le ton de ce que Burton nous montre. On a aussi Amère Victoire.
C'est à voir avec chaque réalisateur.
Je pense que les deux se sont accordés dans le temps, quoi. Ils ont chaque film a été quand même assez réaliste par rapport aux comics, mais chacun dans son époque peut-être.
Disons que quand on voit les films de Nolan et qu'on connaît les grandes histoires de Batman, quand on regarde le film, on est capable de dire ça je l'ai lu dans telle histoire, ça je l'ai lu dans telle histoire. On a du No Man's Land dans le troisième, on a beaucoup de Year One dans le premier, avec du Long Halloween aussi. Enfin, voilà, on est capable comme ça de citer des arcs de Batman quand on voit les films de Nolan. Et on n'est pas forcément capable de faire la même chose pour Burton. À part, effectivement, les origines du Joker, qui sont clairement celles qu'on a pu voir dans les comics avec le bain d'acide, etc. Des choses comme ça. Mais après, Nolan prend quand même des libertés lui aussi. Hein. Certes, Burton n'en a pas fait, mais Nolan a un Robin quand même si on peut parler d'un Robin d'ailleurs, quand on parle de John Blake, qui est quand même qui prend beaucoup de liberté avec les comics. J'aime beaucoup le Alfred de Nolan.
Oui, ça correspond bien, je trouve.
Mais le Alfred de Burton, c'est le Alfred de la série animée. Alors avec son plateau et même la voix, enfin la voix en VF. Je me suis fait un grand plaisir, c'est que j'ai regardé en VF aujourd'hui. parce que je l'avais jamais vu en VF, donc je me suis dit, oh, faut quand même que je vois ça. Et la voix d'Alfred, je me demande si c'est pas la même que celle de la série animée.
Il me semble que c'est la même.
Il y a vraiment les intonations et tout, et du coup, ça fait un petit côté Madeleine de Proust quoi, quand tu vois ça. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'adaptation de l'univers comics? Ok. Nous allons donc attribuer nos points. Et c'est qui a ouvert là? C'est Clément. Eh bien, vas-y, Clément.
Bah, sans hésiter, 2 points pour Nolan.
D'accord, parce qu'il faut préciser. Et Arnaud.
Au départ, j'allais dire 2 points partout pour Nolan. 2 points pour Nolan, pardon.
Ouais.
Et finalement, tu m'as plus ou moins convaincu. C'est vrai que les deux prennent des libertés, les deux adaptent plus ou moins bien l'univers, hein, à leur manière. Donc je pense que j'ai changé d'avis et dire 1 point partout.
Ok. Je vais enchaîner en donnant la même chose, 1 point partout, également, ne serait-ce que pour le premier film de Burton, qui pour moi, et comme j'ai pu le dire mardi dans l'émission sur les séries, quand j'ai vu le pilote de The Flash, voilà, j'avais l'impression de voir un comics qui s'animait devant moi de Batman, quoi. Avec le Joker, son attaque au gaz, etc., la scène épique aérienne et tout. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui m'ont vraiment donné l'impression.
C'est vraiment l'esprit du Joker des comics, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Et du coup, pour ça, ça mérite au moins un bon point pour Burton. Byron.
Moi, je préfère quand même l'approche bien réaliste de Nolan. Et j'aime lire des comics quand ils sont quand même assez réalistes, donc je mettrai quand même 2 points pour Nolan.
Et Étienne.
1 point partout, pareil. Chacun avait sa version à l'époque et elle était correcte pour moi.
D'accord, ce qui donne 3 points pour Burton et 7 points pour Nolan de notre côté. Et du côté des auditeurs, et ben c'est complètement l'inverse, puisqu'on a 72% pour Burton et 28% pour Nolan.
Ouais.
Voilà, c'est pour moi la surprise du sondage et de l'avis des auditeurs. C'est autant d'écart entre les deux. Et beaucoup de commentaires, comme quoi il n'y a pas photo, Burton domine tout. C'est voilà. Donc, soit c'est la première fois du coup que nous avons une telle différence entre les auditeurs et nous-mêmes. On est complètement à l'opposé. On va voir si on arrive à se réconcilier avec le dernier round, qui va parler cette fois de la réalisation. Et c'est là justement on va pouvoir parler du parti pris de chacun. Et c'est Arnaud qui commence.
Sauf que là, c'est compliqué puisque les deux films ne sont pas du tout.
Alors justement, on va essayer de faire l'effort de considérer la différence d'époque, de prendre en compte la différence d'époque et de s'imaginer ce que Burton aurait pu faire si c'était à la même époque que ce Nolan et l'inverse, ce que Nolan aurait fait à l'époque de Burton. Est-ce que voilà. On va pas compter les moyens techniques, visuels, etc.
Non, c'est pas à ce niveau-là, mais même les deux univers sont pas comparables. Parce que Nolan, c'est le réalisateur du réalisme, du logique. Même n'importe quel de ses films ont une explication logique, une théorie qui peut être une théorie réaliste dans ses films. C'est pour ça qu'aucun n'a de super pouvoir, aucun n'est tombé dans une cuve d'acide ou autre. Enfin, ces personnages sont fous, mais ils ont pas de super pouvoir ou autre. Alors que Burton, lui, c'est le réalisateur du merveilleux, du féerique. C'est pour ça qu'on a une Catwoman qui a 9 vies. Et donc, pour moi, les deux sont pas comparables.
Ouais. Etienne,
pareil. Enfin, comme je le disais avant, il a réussi à apporter, il a réussi à transposer l'univers qui était à l'époque des comics. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien. Je crois qu'un des seuls effets spéciaux de Burton, c'était la Batmobile quand elle se met en mode sécurité là.
Cool,
ouais. D'ailleurs, la Batmobile parfaite pour moi. Elle est vraiment, elle est magnifique quoi. Ça doit être une des plus belles, la plus belle peut-être.
Ah bah c'est celle de notre enfance aussi donc.
Ouais. Et du coup, ouais, enfin pour moi en 89 et 92, moi j'ai trouvé que c'était très très correct. Enfin j'ai pas, il y avait rien à rougir. Hein. C'était vraiment très bien réalisé. On n'avait pas, voilà quoi, c'était bien. Hein. Après Nolan, ouais, bah là, ouais, avec les effets spéciaux, tout ça, tu peux faire vraiment de trucs sympas, quoi. Mais c'est très dur à départager, quoi.
Non. Ouais. Moi, pour ma part, je soulignerai clairement la vision artistique de Burton, qui là, on ressent vraiment la personnalité du réalisateur. L'ambiance musicale, les thèmes des films de Burton,
de Danny Elfman,
qui sont super, enfin, ces musiques sont géniales. Le thème principal est le même d'ailleurs que celui de la série animée, donc là aussi ça compte. Effectivement, ce que tu disais sur la Batmobile, non, puis même le style du Joker, ce qui est fait autour de lui, la scène de confrontation à la fin du premier avec l'attaque au gaz là, et compagnie. Enfin, non, il y a vraiment un style artistique très marqué chez Burton, et moi ça me séduit parce que voilà, j'aime beaucoup ce réalisateur et ce qu'il a pu faire après. Alors que Nolan, c'est... En fait, les films de Batman par Burton n'auraient pu être faits par aucun autre réalisateur que Burton, alors que les films par Nolan auraient pu être faits par un Michael Bay ou par je sais pas qui.
Oula.
Oui, je suis une insulte, oui. Par n'importe quel autre réalisateur, on n'aurait pas forcément senti que c'était pas Nolan.
Ouais.
Tu l'aurais senti sur des détails de scénario.
Mais c'est tout.
Et sur la réalisation, non.
Il y aurait plus de Gotham. Michael Bay t'aurait fait sauter.
Oui, non mais d'accord. J'étais un peu fort en disant Michael Bay. Jacques, d'accord. Mais enfin... Du coup, là, on parle de parti pris artistique, de réalisation, etc. Et pour moi, il y a l'empreinte de Burton.
Ouais.
À part le réalisme de Nolan, qu'est-ce qui reste?
Ouais, c'est vrai que... Ouais,
et une certaine rigueur, peut-être. C'est tout.
Ouais, c'est différent.
On parle de Batman de Nolan, le Batman de Nolan, mais est-ce que le Batman de Nolan, c'est pas Christian Bale, c'est pas Heath Ledger, c'est pas tous ces personnes-là, plutôt que Nolan?
Non, parce qu'il a quand même sa vision derrière. Nolan a quand même une vision.
Bah, le fait
sa
que
vision,
que Batman...
c'est le réalisme, c'est tout.
La vision, c'est Batman, c'est un symbole, c'est pas plus qu'un personne, plus qu'une personne. Voilà, il y a ça aussi.
Quand même, à côté, tu prends ce film, tu prends, bah, bien sûr, tu prends aussi la référence qui vient, c'est The Dark Knight. T'as certains aspects, comment dire, des films de Nolan qui sont assez révélateurs. Tu vois bien le post. Alors là, je pars peut-être un peu loin, le poste Amérique sécuritaire, le poste 11 septembre, c'est des époques tout à fait différentes. C'est Nolan qui a ancré Batman à la fois dans un milieu réaliste, mais aussi à faire coïncider le personnage et l'univers de Gotham à une époque, à notre époque, qui est quand même...
Oui. Disons que c'est vrai que quand on voit les films de Nolan, on pourrait croire que ça peut se passer dans la réalité. Alors quand on voit les films de Burton, c'est tellement fantaisiste que...
Je suis pas persuadé que...
On n'y croit pas une seconde.
Je suis pas persuadé quand même quand tu dis que ça aurait pu être... que ce film-là aurait pu être fait par d'autres, enfin les films de Nolan, j'entends. Je suis pas persuadé, c'est quand même... Tu sens quand même... Enfin, moi, pour moi en tout cas, tu sens quand même un minimum la patte... La patte de Nolan, c'est... Non, je pense pas, quoi.
Il est quand même un peu plus commun que Burton.
Oui. Il a une vision... il a une vision artistique plus prononcée dans d'autres films. Là, ça reste quand même un blockbuster de super-héros, disons, commun. Il n'y a pas de... Il se permet pas de grande fantaisie comme il peut le faire dans d'autres films.
Et Burton, et ouais, non, mais, bah, même le Batman de Burton, c'est vraiment quand même à l'image de Burton, c'est la différence en fait.
C'est
n'importe quoi, donc oui, je suis sûr que ça passe. Maintenant, je pense qu'en termes, que ce soit l'adaptation, la réalisation, pour le coup, c'est vraiment purement subjectif. C'est soit on accroche à l'univers de Burton de base, donc forcément, ouais, davantage attiré par sa vision de Batman, sa réalisation. Soit on accroche plus à la série Alice et forcément on accrochera plus, plus à Nolan. Là, c'est pareil, enfin, comme disait Arnaud, je trouve que c'est pas comparable, quoi. C'est deux visions du cinéma. Qui...
Byron, je sais pas si on t'a entendu sur cette question.
Non, mais grosso modo, je ferai ton avis. Je pense que, comme tu l'as dit, bon, je serais peut-être pas aussi, j'irais pas peut-être aussi loin en disant que Michael Bay aurait pu produire ça, mais ça c'est vraiment très juste et c'est, ils ont, les Batman de Nolan, pardon, sont peut-être un peu trop communs et il n'y a pas justement la patte que Burton a apporté bah, dans ses films. Donc du coup, ben, je dirais plus Burton quand même.
Ok. Eh bien, on va donner nos points pour la dernière fois ce soir. Arnaud.
Bah, pour tout ce qu'on a dit, deux points pour Burton.
Ok. Etienne.
Moi, je vais mettre deux points pour Burton parce que tu m'as convaincu qu'il okay. avait une âme.
je vais enchaîner par mes deux points pour Burton également en le justifiant de la manière suivante. Je me suis posé la question, en fait. Je me suis dit que Burton, ce sont de bons films. Sans, en oubliant le côté super-héros, Batman, etc. Et Nolan, j'ai pas réussi à me dire ce sont de bons films. Juste en les prenant en tant que films. Et à partir de là, Burton l'emporte. Byron.
Bah, ce sera le Grand Chelem, du coup. Pour moi, c'est aussi les Burton.
Alors, Grand Chelem, on ne sait pas, puisqu'il y a encore Clément.
Il y a absolument, oui, Clément.
Bah, je vais vous emmerder un coup.
Vas-y.
vous êtes bon plan, vous me foutez le doute. J'hésite entre deux points pour les Nolan, pour vous emmerder un peu, parce que j'accroche plus à Burton, ou un point, deux points, non, je me trompe, un point partout.
Ouais, bon.
Alors vas-y, décide-toi et selon ce que tu décides, je peux le dire dès maintenant, le résultat final pourrait changer.
Voilà, vas-y, tout repose sur toi là.
T'as la pression.
Mais c'est dur parce que. Ah ouais, non, mais il y a. Ah, il y a quand même quelque chose. Non, je peux pas mettre type 2 points à Nolan, c'est pas possible, il y a quand même.
Un point partout alors.
C'est quand même signé de boulot de Burton, donc un point partout.
Ok, donc ce qui se passe est absolument génial. Les auditeurs, vous avez donné 54% à Burton et 46% à Nolan. Ce qui donne pour le score final, de notre côté, les 50 points que nous attribuons donc 26 points à Nolan et 24 points à Burton.
Pouah.
Les auditeurs attribuent 26 points à Burton, 24 points à Nolan, vous l'avez compris, nous arrivons à une égalité parfaite.
Oh là 50 là 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 là.
Points de chaque côté. Nous n'avons pas réussi ce soir à départager Tim Burton de Christopher Nolan concernant les adaptations de Batman. Et finalement, je trouve que c'est pas plus mal comme ça.
Oui, c'est satisfaisant en fait.
Ce résultat est symbolique, je pense, et voilà. Et voilà, on arrive vraiment à du 50-50. J'ai beau calculer de toutes les manières, voilà. Donc voilà, et bien on va se quitter sur une égalité pour ce versus de ce mois-ci. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, Facebook, par message ou par mail si vous voulez défendre votre position et que vous ne l'avez pas fait par le sondage. N'hésitez pas. On va enchaîner sans transition par les deux comics de la semaine et on va le faire très vite. On commence par Batman numéro 35, qui est la première partie de l'arc Endgame. Je vais vous résumer rapidement ce qui se passe dans ce Batman, donc par Scott Snyder, Greg Capullo, on va pas revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ce Batman? Tout simplement, ça se passe après Batman Eternal, donc on a quelques petits trucs qui sont spoilés, mais qui ne gâcheront pas, à mon avis, la lecture d'Eternal. On a par exemple un QG de Batman en plein centre-ville, dans un ancien local de la cour des Hiboux. A priori le 13e étage de la tour Wayne, enfin de la preinte de l'ancienne tour.
Ouais.
On a Batman qui a une vision du futur, qui voit un peu sa fin en fait, où il est entouré de deux associés qui ne sont autres que Duke Thomas et Harper Row, qui ne sont pas des Robins, hein, qui sont juste avec lui à ses côtés. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans ce numéro ? Ben, chaque membre de la Justice League, chacun à son tour, vient rencontrer Batman. Enfin, pas tous, il en manque encore. Ouais. Et on assiste à une attaque au gaz, un gros nuage de fumée qui se développe sur Gotham. On ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, ce nuage de gaz qui a été lâché est un gaz inoffensif, puisqu'il a été lancé par Batman lui-même. Pour pouvoir avoir une arène et affronter les ennemis qui sent qu'ils arrivent contre lui. Sauf que, oh surprise, c'est la Justice League. Ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est le twist final, puisqu'on découvre l'identité de l'ennemi. Et ben, il est de retour.
Ouais.
Et on s'y attendait pas.
C'est ça.
Le Joker.
Encore ?
C'est, a priori, ouais, le Joker qui contrôle les membres de la Justice League. On le voit par le sourire en fait que fait Superman sur la toute dernière page, qui a un sourire du Joker en fait, tout simplement, et puis ce petit is back à la fin de voilà,
avec le grand sourire
de Superman avec son grand sourire de Joker. Donc voilà, c'est ouais, le Joker qui contrôle la Justice League et qui est là pour prendre clairement sa revanche. Qui l'a lu?
Moi.
Eh ben allez-y.
Je voulais dire que Capullo était nouveau, très très bon. Et que pour un premier début d'arc, ça a l'air plutôt pas mal. J'en sais pas encore vraiment trop ce que de quoi vraiment ça va parler, mis à part le retour du Joker, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se prendre, quoi.
Comment il a réussi à contrôler tout le monde, tous ces héros là.
Ouais, on sait pas grand chose, mais du coup ça donne quand même envie de voir la suite. Juste à rajouter que ça donne même aussi envie de voir quand même ce qui se passe à la fin des.
À la fin d'Eternal, c'est ça, t'as dit ?
Ouais.
Ouais.
C'est ça.
Oui, forcément, parce qu'il y a quelques changements qui nous sont montrés. On sait pas trop comment c'est arrivé, pourquoi certaines choses ont lieu comme ça et tout. Donc, oui, effectivement.
On peut supposer quand même qu'il a un nouveau QG, parce que, comme la nouvelle série Arkham
oui,
Manor.
Oui, c'est Arkham Manor. Voilà, ça aussi, c'est dit. Effectivement, il est plus dans le manoir, etc. Donc, a priori, ce fameux étage de la cour des hiboux, là, devient son nouveau QG. Et il le dit lui-même, c'est plus pratique parce qu'il est au cœur de la ville.
Ouais, et c'est pas con parce que être en dessous de l'asile d'Arkham.
Non, c'est pas le bon plan. Etienne ?
Moi j'ai adoré cette première partie de Endgame. Ça m'a fait penser à l'animé, le Justice League Doom, je crois, où Batman a une solution pour chaque super-héros et ça j'ai adoré quoi, le combat et enfin ça commence direct, c'est vachement bien, enfin moi j'ai adoré quoi et j'ai hâte de voir la suite. Et d'ailleurs petite anecdote, celui-là il est à $5, enfin 4,99, et apparemment
ça a beaucoup gueulé, même Snyder et Capullo, et du coup DC est revenu en arrière et à partir du prochain ça revient à $4. Oui.
Voilà, c'est une bonne nouvelle.
Excellent. Oui. Moi aussi j'étais super emballé par ce numéro, j'irai évidemment voir la suite. C'est plein de promesses sur la confrontation avec les autres membres contre la Justice League, sur savoir le Joker, comment il a réussi à faire ça, quel est son but, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, parce qu'il a pas pris le contrôle de la Justice League juste pour casser la gueule de Batman, il doit forcément avoir un autre plan. En apprendre un peu plus sur peut-être les conclusions d'Eternal et pour avoir quelques petits aperçus comme ça de ce qui nous attend. C'est vraiment plein de promesses. Après j'ai envie de dire comme à chaque début d'arc de Snyder, donc j'attends de voir la suite pour dire si c'est une vraie réussite ou pas. On se dirige vers un gros blockbuster, ça c'est clair, mais bon, on était hyper emballé par le début de Death of the Family. À la fin, déjà l'enthousiasme était retombé. Donc on va voir. Maintenant, j'attends de voir avec Snyder.
Mais
en tout cas, très emballé.
À la Comic-Con, là, à New York, Capullo, il a dit que le Joker qu'on avait eu avant, il était gentil à comparer à.
Oui, ça n'avait plus rien à voir et que là,
on nous promet
quelque chose de terrible.
Voilà.
Encore une fois, c'est des promesses et voilà, j'aimerais bien que ça aille jusqu'au bout. On va rester avec Scott Snyder pour parler de Witches, qui est sa nouvelle série en creator owned chez Image, qu'il fait en collaboration avec Jock, qui est au dessin. Donc on retrouve le tandem de Sombre Reflet. Et juste avant de commencer, pareil, à la Comic-Con, il a été annoncé à New York qu'une adaptation ciné était envisagée et que les droits avaient déjà été optionnés. Voilà. Witches, bah qui l'a lu déjà?
Moi.
Moi.
Eh ben Arnaud, vas-y. Si tu peux nous raconter un peu ce qui se passe et nous donner ton avis.
Ce qui se passe. Ça commence par une famille qui vient d'emménager dans une ville. Et l'adolescente aurait tué. Enfin. Aurait assisté à un meurtre surnaturel. Donc, tout simplement, la fille qui l'agressait a été kidnappée par un arbre, disons, enfin par un
manger
être dans l'arbre.
Oui, par quelque oui. chose qui est dans l'arbre, ouais.
Voilà. Et là, on peut se demander si c'est pas justement elle qui contrôlait la chose dans l'arbre. Hein. Puisqu'elle dit elle-même qu'elle en avait très envie, qu'elle avait très envie de la tuer.
Oui, parce que c'est quand même, bah, c'était un peu la souffre-douleur de cette personne. Elle l'a tyrannisée ouais. à l'école, etc. Enfin voilà, c'était vraiment mmh. quelqu'un qui s'en prenait à elle régulièrement. Et...
là, elle était sur le point de la tuer aussi. Donc...
ouais.
Mmh. Et donc, bah, pour mon petit avis, je trouvais ça assez sympa. Enfin, il y a des éléments qui donnent, voilà, envie de revenir. Est-ce que elle était vraiment, elle a vraiment contrôlé l'arbre, enfin. La chose dans l'arbre, cette fin aussi avec cette créature dans l'arbre devant sa chambre. La mère aussi, je pense qu'elle doit cacher quelque chose.
Ouais. Oui, elle n'est pas claire, sa mère. Oui. Mmh. Et puis il y a l'introduction avant cette histoire dans le présent. On a quelque chose qui se passe plusieurs décennies en arrière. Alors je crois que c'est début
20e siècle. 1919, ouais.
Voilà, c'est ça. Mmh. Où on voit une scène un peu similaire où on a quelqu'un qui est en forêt et. Et il y a une créature qui la happe dans un arbre. A priori, on a tous compris que c'était une witches, enfin ce que Snyder lui considère être une sorcière. Mm. Sa version à lui de Smith-là. C'est super mystérieux. Et ce qui moi m'emballe, c'est que Snyder fait ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire qu'il s'ancre dans le passé pour nous proposer une histoire dans le présent.
Mm. Ouais, c'est vrai.
Ça peut être intéressant. Oui.
Comme il l'a fait pour Gates of Gotham, comme il le fait pour American Vampire, qui est quelque chose d'historique et qui avance dans le temps, etc. Dès qu'il y a un côté historique qui est ancré dans le passé, chez Snyder, déjà, on part avec un point positif. Parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Après, Étienne, t'en as pensé quoi, toi, de ce numéro ?
Ouais, c'était correct. L'intrigue, bon, bah ouais, enfin, je me demandais est-ce que c'est elle qui contrôle l'arbre, enfin, qui contrôlait l'arbre, tout ça, et à la fin, bah, on découvre que bon, on spoil ou pas?
Ah, bah oui, complètement, oui.
Ouais, à la fin, il y a la créature qui vient lui parler à l'adolescente, donc bon, du coup, on se dit déjà, elle influence pas sur les arbres, mais plus sur une personne, peut-être qu'elle la contrôle ou pas, je sais pas trop, enfin, bon. Je sais pas, ouais, je vais.
Ouais, quel
vais
est le lien entre cette jeune fille et,
ouais,
les,
voilà,
et,
ouais.
et les fameuses witches puisque...
C'est bon, ouais. Pourquoi pas, ouais. Mais sans bien, mais sans plus, quoi.
Ok. J'ai eu un drôle d'écho dans la tête, là. Bizarre. Et concernant l'aspect graphique de Jock.
Ah oui, c'est bien, c'est. Ouais, c'est pas non plus. Enfin, comment dire. C'est bien dessiné, mais il s'attarde pas trop sur les détails, quoi. C'est pas.
Ah bah, non, c'est des traits un peu plus. C'est plus, ouais. c'est plus violent, c'est plus. Moi, je trouve que ça correspond vachement au. Alors, à l'atmosphère que Snyder veut poser. Et enfin, voilà, le binôme sur ce coup-là est impeccable, quoi. Parce que vraiment, Jock, il transpose vraiment ce genre d'atmosphère un peu glauque, un peu pesante, même par moments. Bah moi ouais je suis plutôt emballé aussi. Bon moi j'attends de voir hein, c'est qu'un numéro 1, c'est on est qu'au tout début de cet univers et de cette histoire, mais ouais en tout cas ouais j'ai bien envie d'aller voir le numéro 2 et de voir comment tout ça va se poursuivre. Je pense qu'on peut avoir ouais, une histoire bien sympa parce que Snyder a quand même fait quelque chose avec American Vampire, ce mythe des vampires de vraiment génial. Là, il s'attaque au mythe des sorcières. D'entrée, on voit effectivement qu'il fait quelque chose de différent. Ça me donne envie de continuer. Arnaud ?
Bah oui, c'est. Enfin, c'est pas renversant, mais c'est assez intriguant. Au moins pour voir ce qu'il peut faire par la suite. Surtout le deuxième avec la fin du premier numéro.
Ouais, ouais. puis ça prend le temps de s'installer, quoi. On n'est pas embarqué tout de suite à tambour battant, on installe les choses calmement, voilà, on a vraiment un premier arc.
Il va falloir qu'il se bouge un petit peu quand même.
Ah bah bien sûr.
Parce que, à part cette histoire-là, il se passe pas grand-chose.
Là, du coup, on a un premier arc d'installation pour vraiment poser les personnages principaux, et puis je pense les bases aussi de ce que lui considère être les Witches, sa vision un peu des Witches. Et une fois que ces bases-là seront posées, il va pouvoir partir dans tous les sens. Il y aura sûrement un petit twist qui va nous renverser un peu tout ça. Et... Enfin, moi, je suis plutôt enthousiaste pour le moment.
Oui, pareil.
On verra avec le numéro 2 si ça continue, mais pour le moment, ça semble pas mal parti. Bon, et bien, les deux comics de la semaine, plutôt positifs. On vous les conseille, plutôt.
Oui. Surtout le Batman.
Surtout le Batman qui est plein de promesses, effectivement. Et bien, nous en avons terminé avec les comics de la semaine. Nous en avons également donc terminé avec cette émission. On se donne rendez-vous mardi pour notre émission série, avec comme d'habitude un débrief des épisodes de la semaine et les news. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre 39e émission. D'ici là, vous pouvez toujours nous contacter par Twitter, Facebook ou par mail. redac@comicstories.fr pour vos avis, vos remarques, vos questions, des idées de thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans l'émission. En attendant mardi et samedi prochain, bonne lecture à tous et bonne série. À bientôt.
Salut.
Salut.